Mesdames, Messieurs, bonjour. Comme je vous l'ai dit ce matin, nous avons donc le plaisir d'accueillir Louis de Bonis, qui est professeur à l'Université de Poitiers, qui va vous parler des primates hominoïdes du Miocène, hominidés et origines des hominiens. Louis de Bonis est un collègue qui a fait beaucoup de terrain, qui a travaillé notamment en Grèce, mais enfin, ce n'est pas moi qui vais parler, c'est lui, donc je lui laisse la parole. Louis, à toi.
Merci Michel. Bien, on va commencer. Primates hominoïdes du Miocène. Tout d'abord, un rappel superflu pour les plus assidus d'entre vous, je pense, à l'ordre des primates auxquels nous appartenons, avec différents groupes, les lémuriformes, les tarsiformes, les simiformes ou anthropoïdes. Eh bien, nous allons parler de ceux qui se trouvent à droite, enfin à ma droite en tout cas, à droite ici effectivement aussi, c'est-à-dire les hominoïdes. La superfamille des hominoïdea et tout d'abord, quelles sont les espèces actuelles des hominoïdea. Espèces actuelles, d'abord les gibbons et les siamangs, formes qui vivent en Indo-Malaisie, formes forestières avec les gibbons et à droite les siamangs, c'est-à-dire deux genres, Illobates et Symphalangus. L'orang-outan avec une ou deux espèces, selon les auteurs, qui vivent donc en Insulinde, Sumatra-Bornéo. Les gorilles, avec deux espèces de gorilles, enfin deux espèces, deux sous-espèces de gorilles. Ici, simplement, une image qui vous montre la différence qu'il peut y avoir entre un mâle et une femelle chez les gorilles. Nous y reviendrons. Et d'autre part, vous montrez le point d'appui très particulier des gorilles lors de la marche, ce qu'on appelle le knuckle walking, en français dans le texte, c'est-à-dire que ces animaux marchent en appuyant la main sur la deuxième phalange. Les chimpanzés, avec le chimpanzé commun et le chimpanzé, le bonobo ou chimpanzé nain, bien qu'il soit aussi grand que l'autre, qui aussi, vous l'observez, marchent sur leur phalange. Ce sont des knuckle walkers, toujours en français dans le texte. Et enfin, le dernier, évidemment, l'homme, l'homo sapiens, c'est-à-dire l'homme qui sait, celui que nous connaissons tous. Il y a des relations phylétiques entre ces différents genres de primates hominoïdes. Ces relations phylétiques nous permettent de les séparer en différents ensembles. Tout d'abord, les gibbons et les siamangs, tout le monde est d'accord là-dessus, constituent une famille particulière qu'on appelle la famille des Illobatidae. Illobates, c'est le gibbon. Ensuite, les orang-outans, dont je fais une famille particulière, la famille des Pongidae. Enfin, la triade chimpanzé, homme, gorille, qui constitue la famille des hominidés. Alors, les différentes familles, tout au moins les différentes attributions, varient quelque peu en fonction des auteurs. En ce qui me concerne, voici ma position. Certains auteurs mettent les pongidés, ce que j'appelle moi les pongidés, dans la famille des hominidés, et d'autres conservent le nom d'hominidés uniquement pour l'homme et ses proches ancêtres. Alors évidemment, ces différents groupes se sont séparés, quel que soit le nom qu'on leur donne, hominidés, lobatisés, etc. Se sont séparés au cours du temps. Donc ils ont tous des ancêtres communs. Un ancêtre commun ici, qui est de plus à gauche pour les gibbons, les siamangs et l'ensemble. Un peu plus à droite, un ancêtre commun pour l'orang-outan et les autres primates hominoïdes, le chimpanzé, l'homme et le gorille. Ensuite, un ancêtre commun qui concerne simplement le gorille, l'homme et le chimpanzé. C'est-à-dire, nous sommes à ce niveau-là. Ensuite, un ancêtre commun pour le chimpanzé ou les chimpanzés et l'homme. Et donc, notre problème va être d'essayer de retrouver dans le passé, à quel moment ces grands groupes se sont différenciés. Alors, on va faire de la phylogénie. Comment va-t-on faire de la phylogénie, c'est-à-dire comment va-t-on essayer d'attribuer un fossile à un groupe ou à un autre? Eh bien, tout simplement, nous voyons ici que, schématiquement, nous avons trois formes. Une forme de base, la forme A, qui donne, là il y a eu des problèmes de lettres surimposées, une forme B, une forme C. Cette forme A se divise. Elle possède un certain nombre de caractères que j'ai représentés par des étoiles. C'est donc l'ancêtre commun A, B et AC. Lors de l'évolution, dans la branche qui va conduire à B, vont apparaître des caractères nouveaux. J'ai représenté ici ce caractère nouveau par une étoile verte. Dans l'autre branche, nous allons voir aussi des caractères nouveaux que j'ai représentés par une étoile rouge. Pas de problème jusque-là. On se sépare. Pendant le temps, ici, on évolue. Des caractères nouveaux apparaissent qui permettent de différencier ici B et C. On va se compliquer un peu les choses avec des intermédiaires. Ici, nous avons toujours l'ancêtre commun, ah, le voilà, avec ses caractères, qui sont des caractères primitifs. Ils vont donner B et C. Nous souvenons B, caractère étoile verte particulier à B. Ici, caractère étoile rouge particulier à C. Puis, C va se diviser à son tour. Et nous voyons apparaître d'autres caractères. Ici, par exemple, le caractère noir qui est particulier à D. Et les caractères bleus qui sont particuliers à E. Nous en venons ici à un autre petit problème. C'est le problème de la phylogénie et des ressemblances. On pourrait penser a priori que quand on descend d'un ancêtre commun, on se ressemble. Ça paraît normal. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ou ce n'est pas toujours vrai. Par exemple, ici, vous voyez que B et D possèdent quatre caractères identiques. Les caractères jaunes hérités de l'ancêtre commun. Ils sont toujours les mêmes, ils n'ont pas bougé, ceux-là. Donc, ils se ressemblent pas mal. Si nous regardons D et E, nous voyons que D et E ont un seul caractère commun. Donc, ils ne se ressemblent pas. Et pourtant, nous voyons dans cette phylogénie que ce caractère rouge-là est déterminant pour savoir quelle est la parenté entre les trois formes B, D et E. D et E sont apparentés, ils ont un ancêtre commun parce qu'ils ont ici un caractère commun qui n'est pas sur B. Et nous verrons que ce raisonnement, on va l'utiliser de façon plus ou moins implicite en permanence. C'est le caractère dérivé, le caractère nouveau qui va nous servir à déterminer les parentés et pas les ressemblances. Simplement, je vous ai montré tout à l'heure les primates hominoïdes actuels, chimpanzés, gorilles. Quand on regarde leur portrait, on a bien l'impression que nous sommes différents des autres, c'est évident. Et pourtant, ce n'est pas vrai. Quand on fait de la phylogénie, on s'aperçoit que, par exemple, nous sommes plus près du chimpanzé que le chimpanzé n'est près du gorille. Alors, quand on voit leur portrait, on a toujours tendance à penser que non, pas du tout. Nous sommes quand même bien à part, donc nous avons dérivé. Eh bien, ce n'est pas vrai. Nous avons une dérivation propre. Mais ça n'a rien à voir avec notre phylogénie. La phylogénie, alors, ça pourrait être la recherche des ancêtres. Or, il est évident que retrouver vraiment les ancêtres, ce n'est pas possible. En général, on découvre ce qu'on appelle des groupes frères. Les ancêtres communs dont nous parlons, souvent, nous ne les connaissons pas. Mais nous pouvons les imaginer à travers, par exemple, dans l'exemple précédent, le caractère rouge qui permettait de dire que deux formes avaient un ancêtre commun qui avait ce caractère rouge, et pas les autres. Ici, c'est un peu un petit exemple, vous nous montrez que des Italiens d'un côté, des Français de l'autre, avec leurs ancêtres lointains. Quel va être l'ancêtre de ce bandit calabré ou de ce conducteur de gondole dans un cimetière romain? On ne pourra pas le dire. On pourra dire simplement que les Italiens descendent des Romains, sensulato, si on évite les mélanges de population, et que nos ancêtres, les Gaulois, comme chacun sait, dans un cimetière gaulois, je vous défie de retrouver le crâne de votre ancêtre. Vous ne le trouverez pas. Donc, les ancêtres vrais, on ne les connaît pratiquement jamais. Quand on parle d'ancêtres, c'est toujours une façon de parler. Alors là, je change carrément de sujet. Les équidés, c'est la famille du cheval, le cheval actuel. Tout le monde connaît le cheval, le genre Equus, famille des équidés. Eh bien, regardez ici une image simplifiée de la phylogénie des équidés au Miocène, l'époque qui va nous intéresser. Vous remarquez ici un arbre extrêmement touffu. Pour aboutir, cet arbre touffu, à un genre actuel, le genre Equus, avec 3 ou 4 espèces, ânes, zèbres, hémiones, un seul genre, et vous avez vu cette bifurcation pendant le Miocène. Alors vous imaginez les genres de hominoïdes actuels, ce qu'a dû être leur histoire. Alors rassurez-vous tout de suite, on ne pourra pas la faire, d'ailleurs, cette histoire complète, heureusement pour vous d'ailleurs, car ça nous prendrait 2 ou 3 semaines pour essayer de voir chaque arbre les uns après les autres. On va donc simplifier énormément. Mais enfin, pour vous ayez une idée de ce qu'est un arbre phylétique. C'est toujours très compliqué, très touffu. Alors pour ça, on va essayer d'utiliser des caractères. Chez les fossiles, quels sont les caractères que nous allons utiliser ? L'épaisseur de l'émail. Pourquoi l'épaisseur de l'émail ? Une raison très simple, c'est que les mammifères ont des dents, comme d'autres vertébrés, d'ailleurs, ce ne sont pas les seuls, mais ces dents sont extrêmement solides. Et quand on fouille, quand on cherche des fossiles, très souvent, on rencontre des dents. Donc, les dents se conservent mieux que l'os. En règle générale, donc on a beaucoup de dents plus que d'os. Donc, on travaille beaucoup sur les dents, en plus. C'est-à-dire que les dents nous donnent aussi d'autres indications. Elles donnent des indications sur le régime alimentaire, c'est important. Carnivore, un herbivore, n'ont pas les mêmes dents. Et à l'intérieur de ces grands groupes, carnivores, herbivores, etc., ou omnivores, on peut différencier différentes catégories. Donc, les dents sont très importantes. Et en particulier, l'épaisseur de l'émail. Voici par exemple ici une dent avec l'émail, avec la dentine, la dentine, ce qu'on appelle aussi l'ivoire. Eh bien, on se rend compte que chez les primates hominoïdes, les dents sont assez différentes à ce qui concerne en particulier l'épaisseur de l'émail, qui recouvre la couronne de la dent. On voit par exemple ici, dans la file de gauche, des dents d'un hominoïde dont l'émail est mince. À droite, un hominoïde dont l'émail est épais. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut faire ? Eh bien, ça peut faire beaucoup de choses. Quand on regarde l'usure de ces dents, on s'aperçoit qu'un hominoïde qui a des dents à émail mince, très vite, quand les dents commencent à fonctionner, l'émail disparaît à la pointe des tubercules de la dent. Ce sont des molaires ici que nous voyons. Eh bien, on voit tout de suite apparaître la dentine ici. Très vite. En revanche, ici, nous avons un hominoïde à dents à émail épais. Eh bien, en dessous, nous voyons que lorsque la deuxième molaire ici est très usée, on voit la dentine partout. Souvent, sur la troisième molaire, on ne voit absolument pas la dentine. Deux types d'émail différents quant à l'épaisseur, deux types de régimes alimentaires différents. Je pourrais vous dire que, ici à gauche, nous avons un hominoïde qui mange des aliments relativement tendres. Ah, vous allez dire pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que si des aliments étaient durs, étaient résistants, eh bien, ses dents seraient rabotées extrêmement vite et l'animal ne pourrait pas vivre assez longtemps pour se reproduire en quelque sorte. À droite, vous avez ici un hominoïde qui doit manger, qui peut manger des aliments extrêmement durs, car ses dents à émail épais vont résister longtemps. Deux régimes alimentaires différents, deux milieux différents. Les nourritures tendres, ce sont en général pour les hominoïdes les feuilles, les bourgeons. Chez un hominoïde à émail épais, ça pourrait être des racines, des tubercules, beaucoup plus durs, beaucoup plus abrasifs. Donc, deux types de dents, deux types de régimes alimentaires. Si nous regardons les primates modernes, ce que nous avons vu tout à l'heure en image, le gorille, le chimpanzé, le orang-outan ou l'homme, nous remarquons que l'homme est celui qui a l'émail le plus épais. Alors vous direz, c'est curieux quand même, parce que quand je mange un steak ou quand je mange un canard à l'orange, je n'ai pas l'impression de manger une nourriture épaisse, c'est vrai, et abrasive, c'est vrai. Mais on peut penser que nous dérivons de primates hominoïdes qui devaient avoir un émail assez épais. Et on peut même étendre, nous dérivons de primates hominoïdes qui devaient vivre dans un milieu où cette nourriture tendre, les fruits, les bourgeons, les feuilles tendres, n'était pas abondante. Donc un milieu beaucoup plus sec, beaucoup moins forestier, beaucoup plus ouvert. Vous voyez qu'à partir simplement de l'épaisseur de l'émail, on peut arriver à tirer certains types de conclusions. Autre chose, la différence entre sexes, femelle et mâle. Ici, c'est le gorille, avec à gauche une femelle, à droite un mâle. Différence importante quant à la taille, et différence relativement importante aussi quant à la taille relative des canines. Regardez ici le mâle d'un gorille, avec ses grandes canines, la femelle avec des canines beaucoup plus petites. La taille est plus petite, les superstructures ici, cette crête sur laquelle s'insèrent les muscles masticateurs chez le gorille est beaucoup plus importante. D'un peu plus près, pour vous montrer comment apparaît une certaine facette dont je parlerai tout à l'heure, qu'on appelle la facette aiguisoire. Pourquoi aiguisoire ? Eh bien, c'est la facette où on ne la voit pas ici. Pourquoi ? Parce qu'elle est cachée par la canine supérieure du gorille. Cette facette, c'est celle qu'on trouve sur la prémolaire qui est en dessous. Cette prémolaire qui est en dessous, c'est la troisième prémolaire, car les hominoïdes, je ne sais pas si M. Gégère vous en a parlé il y a quelques semaines, n'ont plus que deux prémolaires au lieu des quatre prémolaires qu'avaient les primates primitifs. On n'en a plus que deux. On a perdu la première et la deuxième. Donc, notre première prémolaire, c'est la troisième, la P3. Eh bien, elle est en dessous, ici, la canine, et sur la face externe de cette prémolaire, il y a une facette d'usure provoquée par le frottement de la canine supérieure, et on l'appelle la facette aiguisoire, dans la mesure où elle aiguise la canine supérieure. Autre détail, c'est ce qu'on appelle le canal naso-palatin. Qu'est-ce que c'est que le canal naso-palatin ? Eh bien, c'est le canal qui unit le palais à la région nasale, un petit canal qui passe dans le maxillaire, qui pénètre donc dans la région nasale. Deux types chez les primates modernes, le type que nous voyons ici à droite, le gorille ou le chimpanzé. Nous voyons qu'ici, ce canal, le voilà, il est assez large. Voici ici l'os qu'on appelle le prémaxillaire, qui tombe de façon abrupte dans le canal. Un peu moins chez le chimpanzé, vous voyez encore ce canal ici et la façon abrupte dont le prémaxillaire tombe sur le canal. À gauche, l'orang-outan, Pongo. Regardez ici le recouvrement du palais ici par le prémaxillaire et un canal qui est très mince et très long. On veut dire, quelle importance ? Eh bien, il se trouve que chez les primates hominoïdes, le seul qui ait ce caractère, c'est l'orang-outan. On peut penser, si on regarde les autres primates, par exemple les babouins, ils ont exactement la structure qu'on voit ici. Donc, on peut penser que cette structure est la structure primitive des primates, que ce soit des babouins, des autres singes ou des hominoïdes. Et ici, c'est une structure dérivée qui est propre à l'orang-outan. Nous verrons tout à l'heure l'importance de cette structure. Nous allons maintenant arriver finalement au sujet de la conférence, le Miocène. Le Miocène, c'est une époque du tertiaire qui commence grosso modo vers 24 millions d'années, qui se termine aux alentours de 5 millions d'années, un peu plus, un peu moins, selon les auteurs. La partie qui va nous intéresser, c'est surtout le Miocène moyen et le Miocène supérieur. Alors tout d'abord, nous allons voir ce qui se passe en ce qui concerne... Bon, d'abord, je voudrais dire que pour les Hylobatidés, les Gibbons et les Siamangs, on connaît très mal leur histoire. Mais on sait que ce sont ceux qui sont séparés du groupe les premiers, sont les plus primitifs, on n'en parlera pas aujourd'hui. On va simplement commencer par parler de l'orang-outan, c'est-à-dire le genre Pongo, donc la famille des Pongidés. Eh bien, on connaît en Asie une forme qu'on appelle le Siva pithecus. Pourquoi Siva ? Eh bien, Siva, trouvé au nord de l'Inde, donc un nom dédié à une divinité hindoue, Siva. Siva pithecus, voici ici un crâne de Siva pithecus. Voici ici le même crâne de Siva pithecus, encadré à gauche par un orang-outan, à droite par un chimpanzé. Le voici ici au milieu toujours. Ici l'orang-outan, ici le chimpanzé, on a inversé les deux crânes. Eh bien, vous remarquez que quand on regarde ce morceau de crâne, ça paraît un morceau de crâne, mais c'est une affaire extraordinaire, parce que c'est la pièce la plus importante qu'on connaisse dans ces niveaux-là, relativement à les ancêtres de l'orang-outan. Vous remarquez qu'ici, il y a une espèce de concavité sur le museau. Vous regardez l'orang-outan, Regardez cette concavité, vous la retrouvez exactement chez l'orang-outan actuel. Chez les autres primates hominoïdes, elle n'existe pas. Que ce soit ici le chimpanzé, que ce soit le gorille, que ce soit l'homme, elle n'existe pas. Donc c'est un caractère dérivé, particulier et propre à l'orang-outan. Nous l'avons donc ici sur le cyvapithèque. Voici ici le même cyvapithèque, encadré par chimpanzé et orang-outan. Alors je vous demanderai de regarder la forme des orbites. Ce n'est pas grand-chose. Vous voyez ici des orbites quadrangulaires, à peu près. Les nôtres aussi sont grosso modo quadrangulaires. Celles du gorille aussi. En revanche, regardez celles de l'orang-outan. Elles sont ovalaires, donnant un orang-outan un air extrêmement étonné, en permanent, au crâne d'un orang-outan. On a l'impression d'un étudiant à qui on pose la mauvaise question et qui vous regarde avec un air étonné. Eh bien, c'est comme un crâne d'orang-outan. Eh bien, vous regardez ici le cyvapithèque, il a exactement le même type d'orbite que l'orang-outan. Ce sont des caractères qui sont des caractères dérivés et qu'on retrouve chez le cyvapithèque. Le cyvapithèque, on le connaît en Asie à partir de 13 millions d'années, 12 à 13 millions d'années, jusqu'à 7-8 millions d'années. Donc, dans le Miocène, nous avons des ancêtres de l'orang-outan bien avérés en Asie. En revanche, si nous regardons les os des membres, voici à droite des humérus attribués au cyvapithèque. Ici, des humérus dominoïdes actuels. Et ici, l'humérus d'un cercopithécoïde, un cercopithèque, c'est-à-dire un macaque, un singe comme ceci. Eh bien, vous voyez que ces humérus ressemblent plus à celui d'un macaque qu'à celui d'un dominoïde. Donc, ces cyvapithèques n'avaient pas le même mode de déplacement dans les arbres que l'orang-outan. Tout ce qu'on peut dire. On connaît également d'autres formes affines de l'orang-outan. Ici, le Lufeng pithecus. Pourquoi Lufeng pithecus? Parce qu'on l'a trouvé à Lufeng en Chine. Donc, on les connaît en Chine avec ici, bon, je n'insiste pas sur les détails anatomiques, mais une différence entre des femelles et des mâles. Femelles plus petites, mâles plus grands, avec canines relativement plus grandes. Une autre forme, retrouvée celui-ci en Thaïlande, le Korat pithecus, qui également présente les caractères d'orang-outan. Donc ce groupe de l'orang-outan est déjà implanté en Asie depuis au moins le Miocène moyen, c'est-à-dire depuis 13-14 millions d'années, au moins, probablement plus ancien, mais enfin, au moins. On le connaît pourtant plus à l'ouest, ici une forme qu'on appelle l'Ankara pithecus. Ankara pithecus, tout de suite, ça vous donne l'origine de ce fossile, la Turquie. C'est une forme du Miocène supérieur de Turquie et qui possède des caractères, voici ici le maxillaire en dessous, des caractères d'orang-outan, lesquels, eh bien, l'histoire du canal nasopalatin dont je parlais tout à l'heure, je n'en parlais pas pour rien. Voici ici, par exemple, le cyvapithèque dont je parlais tout à l'heure, cyvapithecus indicus, avec ce petit canal palatin comme celui de l'orang-outan. Ici, c'est la forme de Turquie. Là, il est appelé cyvapithecus, mais enfin, on l'appelle aussi Ankara pithecus. Voici ici le canal palatin, très fin également, et avec le prémaxillaire qui recouvre en partie la région nasale, dans cette région. Donc, ce caractère dérivé, propre à l'orang-outan, on le connaît aussi chez Ankara pithecus, chez le cyvapithèque. Donc, tout ça, ce sont des formes qui se rattachent à l'orang-outan. D'autres formes se rattachent à l'orang-outan également. Celui-ci qu'on appelle Endopithecus. Endopithecus, trouvé dans l'Inde, évidemment, sur les contreforts de l'Himalaya. C'est une forme assez massive. Vous voyez ici la mâchoire inférieure, très massive, très lourde. Et il est probable que cet endopithèque se trouve sur le chemin qui va conduire à une autre forme qu'on appelle le Gigantopithèque. Alors, Gigantopithèque, tout de suite, singe gigantesque. Eh bien, voici ici deux mâchoires de Gigantopithèque. À gauche, une femelle, à droite, un mâle. À droite, ici, encore plus à droite, une mâchoire de gorille mâle. Un gorille mâle, c'est un animal qui peut peser 200 kg, quand même, facilement. Imaginez ce que devait peser un mâle de gigantopithèque. Alors, il se trouve que ces gigantopithèques, là, je sors un tout petit peu de mon domaine de conférence, je parlais du Miocène. Eh bien, le gigantopithèque, il n'est pas du Miocène. L'endopithèque était dans le Miocène, le gigantopithèque est plus récent. On le connaît dans le Quaternaire de Chine. Et cet animal qui pourrait être daté de 300, 400, 500 000 ans, donc ce n'est pas énorme par rapport aux millions d'années dont je parlais tout à l'heure, il se présentait en Chine sous la forme d'un primate gigantesque. Alors, d'aucuns pensaient que peut-être, un animal ou un être dont on a beaucoup parlé pourrait être un peu le dernier représentant de ce gigantopithèque. Malheureusement, le gigantopithèque, il est connu surtout par des traces dans la neige ou sur le sol, et je crois qu'il n'y a qu'une personne qui a pu le voir, mais malheureusement, le témoignage du capitaine Haddock est assez peu fiable, donc on ne sait pas à quoi se représentait ce yéti, s'il était vraiment un descendant du gigantopithèque. Nous changeons de continent, nous venons maintenant sur l'Afrique. Alors l'Afrique, là je vous ai donné une série de genres de primates hominoïdes africains du Miocène. Vous voyez que là il y en a une douzaine, j'en ai oublié encore deux ou trois. On ne va pas insister sur tous ces genres-là, ce n'est pas possible, ça nous prendrait une bonne semaine. Simplement, vous voyez que, pensez tout à l'heure à l'image que je vous ai montrée de la lignée des équidés qui mène au cheval avec cette espèce de buisson du Miocène. Ici, nous avons aussi un buisson. Malheureusement, on ne connaît pas très bien les liens qui relient ces différentes formes les unes avec les autres, mais ils sont présents. Donc, il y a tout un monde de primates hominoïdes en Afrique, au Miocène. J'insisterai sur un d'entre eux, le premier en haut à gauche, qu'on appelle le proconsul. Un mot au passage sur, pour vous montrer simplement un de ces des représentants de ce groupe, l'Afropithèque, et puis un petit mot sur l'Otavipithecus, pour des raisons de biogéographie. Proconsul, le voilà. Alors, proconsul, un nom évidemment très curieux pour un primate. Pourquoi proconsul ? Pour que vous pensiez tout de suite à un consul romain. Non, en fait, c'était simplement ce qu'il a été trouvé. À cette époque-là, il a été trouvé par un chercheur anglais. Et à Londres, il y avait un chimpanzé qui était très célèbre dans le public pour ses facéties, un chimpanzé de music hall, et ce chimpanzé, on l'avait appelé consul. Et d'où le fossile a été appelé proconsul. D'où l'origine de ce nom très curieux. Voici ici le crâne d'un proconsul. On connaît une bonne partie du squelette du proconsul. Alors là, par rapport aux formes que nous avons vues tout à l'heure, les hominoïdes actuels, le chimpanzé, le gorille, qui ont tous des bras assez allongés, qui sont des formes qui se déplacent dans les branches, en se suspendant aux branches. Le proconsul, non, était une forme plus primitive, pas encore adaptée à ce déplacement particulier sous les branches, mais plutôt un primate arboricole, mais un primate arboricole qui ressemblerait plutôt à un singe commun, à un macaque, qu'à un hominoïde. Voici ici d'ailleurs la reconstitution de ce proconsul en train de se promener sur une branche. Vous remarquez que c'est un hominoïde. Il n'a pas de queue, d'ailleurs, comme les singes, macaques, etc., qui ont tous une queue. Ici, il n'en a pas, c'est un hominoïde, mais il n'a pas un déplacement d'hominoïde actuel. L'Afropithèque, simplement pour vous montrer des images d'un de ces fossiles que l'on connaît en Afrique, un de ces nombreux fossiles, avec ici quelques caractères primitifs sur lesquels je n'insiste pas, la forme du crâne ici, qui rappelle plutôt des formes beaucoup plus anciennes, qui ne sont même pas des hominoïdes, qui sont des primates, mais pas encore des hominoïdes. Simplement une canine extrêmement puissante, caractère primitif chez les hominoïdes en règle générale. Un petit mot malgré tout sur celui-là, Otavipithecus. Ce n'est pas grand-chose, c'est une petite mandibule. Une demi-mandibule, même pas complète. Mais elle est importante d'un point de vue biogéographique. Car les fossiles dont je vous ai fait la liste tout à l'heure, là, à l'instant, africains, ces fossiles, on les connaît essentiellement en Afrique de l'Est. On les connaît dans la Rift Valley. La Rift Valley, c'est une vallée d'effondrement qui fonctionne pendant tout le Miocène. Cette vallée d'effondrement, c'est une vallée qui va attirer les sédiments dans lesquels vont couler des fleuves, dans lesquels il y aura des lacs. Et avec les sédiments, on va retrouver les cadavres fossiles des animaux qui peuplaient cette région. D'où une richesse dans la documentation fossile de cette région extraordinaire. Or, tous les primates dont je vous ai parlé proviennent de cette région et d'un peu plus au sud, à peine. Eh bien, la différence, c'est que l'Otavipithecus, lui, il provient de l'autre côté de l'Afrique, en Namibie. Ce qui nous indique certainement que entre cette région, ben voilà, et celle-ci, il devait y avoir un grand nombre de formes qui nous sont encore complètement inconnues. C'est-à-dire que nous travaillons un petit peu avec un puzzle dont il manque le trois quarts des pièces, à peu près. Alors nous essayons de reconstituer nos phylogénies autant que faire se peut, mais il nous manque encore énormément de documents. Ce simple fait d'avoir trouvé un fossile de primates hominoïdes ici nous montre qu'il devait certainement y en avoir dans toute cette région. Nous allons maintenant passer de l'Afrique à l'Europe avec deux formes. Là aussi, il y en a d'autres, mais je n'en parlerai pas. Deux formes, le Dryopithèque, que l'on connaît depuis l'Espagne jusqu'à la mer Noire, donc bonne partie de l'Europe, et l'Uranopithèque, que l'on connaissait jusqu'à pas très longtemps en Grèce, et depuis peu de temps, on l'a retrouvé en Bulgarie et en Turquie. Alors, en Europe, en vert ici, les gisements du Dryopithèque, jusqu'à la mer Noire, tout le long, et un peu plus au sud, en Europe toujours, mais plus au sud, ici, la Grèce du Nord et la Turquie, ou la Grèce du Nord et la Bulgarie, pardon, et ici, la Turquie, où on a retrouvé récemment l'Uranopithèque. Donc, deux formes. Deux formes européennes, européennes ou d'Asie mineure, très différentes malgré tout. Tout d'abord, le Dryopithèque. Le Dryopithèque est intéressant dans la mesure, pour point de vue historique, c'est un fossile qui a été trouvé pour la première fois près de Toulouse, à Saint-Gaudens. A priori, vous ne penserez pas trouver des fossiles de primates hominoïdes à Saint-Gaudens. Bien oui, le premier est trouvé à Saint-Gaudens. On l'appelait Dryopithecus. Dryos, c'est le chêne, le singe des chênes, car à proximité, il y avait un gisement de bois fossile qui donnait des chênes. Donc ce Dryopithèque, le voilà, une mandibule. Sur cette mandibule, un caractère dont j'ai parlé tout à l'heure, mais sur lequel je reviens maintenant, c'est cette facette aiguisoire. Vous voyez ici, cette dent, ça c'est la canine qui a été cassée. Elle devait être grosse ici, elle est cassée. Ça c'est la première des prémolaires, c'est-à-dire ce que nous appelons nous la P3, la troisième en fait, puisque les deux premières ont disparu, la P3, là voilà. Vous voyez ici cette facette brillante, là, polie. Eh bien, cette facette polie a été provoquée par le frottement de la canine supérieure. C'est ce que l'on appelle la facette aiguisoire. Cette facette aiguisoire, a priori, rien d'extraordinaire. On la connaît chez le gorille, on la connaît chez le chimpanzé, on la connaît chez le orang-outan, on la connaît chez les macaques, on la connaît chez les babouins, on la connaît chez tous ces primates-là, mais on ne la connaît pas chez l'homme. Donc, pour l'instant, ce Dryopithèque, il a la facette aiguisoire classique des hominoïdes, excepté l'homme. D'autres Dryopithèques ici, trouvés en Espagne. Alors, la photo est peut-être un peu floue, mais vous remarquez simplement que sur ce maxillaire, ici, ce sont des mâchoires supérieures, vous voyez ici les plaques blanches. Eh bien, c'est la dentine qui apparaît en dessous. Sur la première molaire, ce sont les deux prémolaires, la première molaire, la deuxième molaire et le début de la troisième molaire. C'est-à-dire que la dentine apparaît sur les trois molaires presque en même temps. Presque en même temps. Petit décalage, mais presque en même temps. On peut dire, ben, ce Dryopithèque, il avait une émaille mince. Même sans faire de coupe, maintenant on peut faire des coupes évidemment très facilement dans les dents, mais même sans faire une coupe, premier coup d'œil, vous pouvez dire, il avait une denture à émail mince. Vous pouvez dire aussi, il avait une denture à émail mince, certes, mais alors, il devait se nourrir de nourriture tendre, c'est-à-dire de fruits, de bourgeons, de jeunes feuilles. Et donc, il devait vivre dans un milieu assez boisé, assez forestier, pour avoir cette nourriture en permanence toute l'année. Une autre forme trouvée en Hongrie, un autre Dryopithèque, là aussi, vous remarquez ici, l'émail qui apparaît ici en noir, sur cette fois-ci, pratiquement sur les trois molaires en même temps, c'est la canine, les deux prémolaires et les trois molaires, l'émail partout. Donc là aussi, ce Dryopithèque, un émail mince. D'un peu plus près, la même photo, avec ici, vous voyez, les traces de la dentine qui apparaît. Une photo de la forêt dense actuelle. Eh bien, il est probable que Cendriopithèque vivait dans un milieu qui devait rappeler pas mal la forêt dense, et on peut reconstituer l'endroit où habitait d'abord l'Odryopithèque lui-même, des bras assez allongés, on connaît son squelette en Espagne, des bras assez allongés, un animal qui s'est déplacé dans les branches en se suspendant et qui vivait dans un milieu. Ici, image un peu de paradis terrestre où on a rassemblé un peu tous les animaux qu'on a trouvés avec lui. Mais vous voyez un marécage, certainement. Ça, on a retrouvé des traces de sédiments de marécage, sans problème. Des formes mangeurs de feuilles, donc animaux de forêt, tout ceci. Ici, des formes particulières, les calicotères, qu'on appelle le cheval de gorille quelquefois, de grands animaux se nourrissant de feuilles également. Bon, tout un habitat forestier qui abritait le Dryopithèque. L'autre primate dont nous allons parler, c'est l'Uranopithèque. Celui-là, trouvé en Grèce, à laquelle je tiens particulièrement, parce que c'est moi qui l'ai trouvé. Donc, un petit côté affectif. Voici ici un crâne, ce qu'on appelle nous un crâne, c'est-à-dire un morceau de crâne de cet Uranopithèque. Sa reconstitution, bon, je vous accorde qu'il n'était pas très sympathique dans l'ensemble, mais c'est une forme qui a 9 millions d'années, donc relativement ancienne. On va essayer de voir quels sont les caractères de cette forme-là. D'abord, une partie du matériel que nous avons trouvé dans le même gisement, enfin dans deux gisements différents, proches l'un de l'autre, un matériel énorme, dans lequel, là il n'est pas complet, la photo a été prise il y a quelques années, depuis on a encore amélioré, si vous voulez, le rendement de ces fossiles. On en a maintenant quelques-uns de plus, quelques mâchoires supplémentaires. Ça permet de voir quelle est la variation dans une population, ce qui est très important, parce que ça ne veut jamais savoir si on a affaire à une espèce ou une autre espèce, ou alors si on a affaire à la même espèce avec des mâles et des femelles. Eh bien ici, on sait que maintenant, nous avons affaire à la même espèce avec des mâles et des femelles. Comment sait-on qu'il s'agit de mâles? Eh bien, les caractères qu'on voyait tout à l'heure sur le gorille, les revoilà. Ici, à gauche, une mandibule, une mâchoire inférieure, de mâle. Elle est plus grande que celle de droite. La canine est plus grande en valeur absolue et aussi en valeur relative. Ce sont les caractères qui permettent de différencier actuellement chez les grands primates les mâles des femelles. Donc un mâle ici à gauche, une femelle ici à droite. Une autre vue avec une mandibule de femelle ici, une mandibule de mâle. Vous voyez la différence de taille, la différence sur les canines. Qu'en est-il de l'épaisseur de l'émail sur laquelle j'ai insisté pour le Dryopithèque? Eh bien, ici, nous avons un animal. Donc, vous voyez, un animal assez âgé. C'est une femelle, une vieille femelle. Une vieille femelle, pourquoi? Parce que l'usure est très forte sur les dents. Regardez ici, la première molaire, complètement ratiboisée. Il n'y a plus d'émail, pratiquement. On voit la dentine partout. Sur la deuxième, on voit encore pas mal de dentine, un peu moins. Et sur la troisième, la dentine n'apparaît pratiquement pas. Juste un petit peu au sommet d'un tubercule. Je peux en conclure que cet animal avait des dents à émail épais. Mais j'en suis certain, parce que maintenant, il y a eu des dents, on peut faire des coupes, etc. Mais simplement, un coup d'œil sur la face occlusale, ce qu'on appelle la face broyeuse des dents, nous permet de dire qu'elle avait un émail épais, que cet animal avait un émail épais. Pardon. Il y a ce qu'on appelle un gradient d'usure de la première à la troisième molaire. Les mêmes dents vues d'un peu plus près, vous voyez ici la dentine partout, et vous voyez qu'ici la dentine n'apparaît pratiquement pas. Une mâchoire supérieure avec les mêmes caractères. Regardez ici la première molaire, très usé. L'émail apparaît ici, sur toute cette partie-là, la partie intérieure, la partie interne, un peu sur le tubercule. La dentine apparaît un peu moins sur la deuxième et pas du tout sur la troisième. Donc, émail épais. Émail épais, donc, nourriture assez abrasive. Donc, animal qui pouvait vivre dans un milieu que l'on appelle le milieu plus ouvert. Il n'est pas obligé de vivre dans la forêt dense, avec des fruits, des feuilles, etc., toute l'année, il peut vivre une saison sèche, par exemple, en se nourrissant de racines ou de tubercules, pour augmenter, évidemment, son régime alimentaire. Voici ici la reconstitution d'un paysage avec des animaux que l'on trouve. Bien, tout à l'heure, on trouvait, avec le Dryopithèque, des animaux plutôt de forêt. Ici, nous allons trouver des animaux, qui sont des animaux de milieu ouvert, des antilopes en quantité, comme cela nous trouvons en Afrique actuellement, des formes différentes, mais avec les mêmes adaptations. Donc, un animal qui avait un milieu complètement différent de celui d'une Rheophytech. Alors, on va essayer maintenant de comparer cet Uranopithèque avec d'autres primates fossiles plus récents, pour savoir s'il peut se rattacher à des formes plus récentes. Tout à l'heure, nous avons vu que, par exemple, les Sivapithèques se rattachaient à l'orang-outan. Eh bien, nous allons voir maintenant l'Uranopithèque, et on va le comparer à un Australopithèque, Australopithecus afarensis, qui est une espèce ultra célèbre, dans la mesure où c'est l'espèce qui contient la célèbre Lucie, donc connue universellement. Voici ici deux mâchoires. À gauche, Australopithecus afarensis, à droite, l'Uranopithèque. Différence, essentiellement, la canine est plus forte sur l'Uranopithèque que sur afarensis. Mais si vous comparez celle d'afarensis à un hominien plus récent, à un homo, par exemple, vous apercevez que la canine est énorme par rapport à la vôtre ou à la mienne. Énorme. Mais beaucoup moins grande que celle de l'Uranopithèque. Voici ici les maxillaires, toujours Australopithecus afarensis en haut, Uranopithecus en bas, toujours une différence dans la taille de la canine, mais ici, nous avons une canine qui est quand même relativement forte pour un hominien. Si l'on compare les canines à travers le Miocène, voici ici en haut celle du proconsul. Les formes ayant été toutes placées à la même longueur prémolaire-molaire, pour montrer la taille relative de la canine. Voici ici proconsul. La canine paraît énorme. Ici, l'Uranopithèque. La canine est grande, mais beaucoup moins forte que celle-là. Proconsul, c'est une forme qui datée entre 15 et 17 millions d'années. Ici, nous avons une forme datée à 9 millions d'années. Ici, nous avons afarensis, environ 3 millions et demi, 4 millions d'années. La canine est encore réduite. Et ici, nous avons un homme récent, l'homme de Néandertal, avec une canine pratiquement aussi grande que la nôtre, en valeur relative. Donc, il y a, à travers le temps, une réduction de la taille de la canine. Le fait d'avoir une canine plus forte que celle-ci n'implique pas que ces deux formes-là ne soient pas apparentées. Simplement, elles se trouvent sur la même tendance évolutive de réduction globale de la canine chez certains hominoïdes. Morphologie de la mandibule. Voici ici deux mandibules, afarensis uranopithecus. Je pense que cette mandibule glissée dans un gisement d'Afrique de l'Est passerait très facilement pour un australopithèque, très facilement. Je pense que beaucoup de collègues s'y tromperaient. Les mâchoires supérieures, cette fois des dents plus fraîches, à droite, afarensis toujours, à gauche, uranopithecus. Regardez le dessin de la troisième molaire. On la retrouve pratiquement les mêmes tubercules, aux mêmes emplacements. Donc, une ressemblance extrêmement proche entre ces deux formes. Les gradients d'usure, j'en ai parlé tout à l'heure, les revoilà. Sur un Uranopithèque, sur un Australopithèque afarensis, vous retrouvez les mêmes gradients d'usure. Donc, Australopithèque afarensis a également un émail épais, comme l'Uranopithèque. Il vit dans le même type de milieu, milieu plus ouvert. Savane, par exemple, actuellement, ce qu'on appelle une savane. La même chose sur les dents inférieures, le même gradient d'usure chez Australopithecus afarensis ou chez l'Uranopithèque. La forme des facettes d'usure. Ici, nous quittons les molaires, nous regardons les prémolaires, en particulier la première prémolaire ici, qui est la P3. Australopithecus à droite, Uranopithecus à gauche. Vous regardez qu'ici, vous souvenez la facette exoire que je vous ai montrée sur le Dryopithèque, qui était sur la face externe de cette prémolaire, elle n'existe pas. Ici, elle n'existe pas non plus. Là, c'est un moulage de Australopithecus afarensis. Elle n'existe pas non plus. Disparition de cette facette. En revanche, regardez l'usure, la forme des facettes d'usure et des prémolaires, usées par le sommet, par l'arrière ici, et par l'avant ici. Regardez chez Australopithecus afarensis, La même dent usée par le sommet, usée par l'arrière, vous voyez ici, malgré que ce soit un moulage, très très bien la facette d'usure, et elle se prolonge légèrement en avant. Vous avez exactement le même type d'usure sur ces deux prémolaires. Même type d'usure, ça signifie même façon de mastiquer, même mastication. On ne mastique plus avec une canine qui frotte ici, mais au contraire, une mastication plus horizontale et qui affecte essentiellement le sommet d'abord, puis ensuite l'arrière et l'avant de ces deux dents. Même mastication, donc probablement, voici ici un peu plus gros ces deux dents, vous remarquez qu'elles se ressemblent énormément, probablement des nourritures pas très différentes. Alors, on peut en penser que cet Uranopithèque a beaucoup de points communs avec les Australopithèques plus récents. Les Australopithèques appartiennent au Pliocène, donc ils sont plus récents que l'Uranopithèque, mais il y a des caractères déjà qui sont présents sur l'Uranopithèque, donc on peut penser que, pas dire que l'un est l'ancêtre de l'autre. Tout à l'heure, je vous ai montré que dans un cimetière romain ou dans un cimetière gaulois, vous ne retrouveriez pas vos ancêtres. Mais que ces deux fonds sont apparentés, quand probablement elles ont un ancêtre commun. Il n'est pas l'ancêtre du chimpanzé, qui lui a des dents à émail fin, a un mode de vie complètement différent, est un animal forestier, et non pas un animal de milieu ouvert. Alors, cet Uranopithèque, pendant longtemps, il a été connu uniquement en Grèce. Je crois que j'ai découvert la première mâchoire en 1973, c'est pas hier, et depuis, on a accumulé le matériel, et pendant longtemps, c'était un point isolé en Europe, où on trouvait cet Uranopithèque. Mais il se trouve que depuis peu, on en a trouvé en Bulgarie. Ce n'est pas encore publié officiellement, juste une petite note. Une dent trouvée en Bulgarie et qui ressemble comme deux gouttes d'eau à une dent de l'Uranopithèque. On en a retrouvé en Turquie, publication de l'année dernière. Une forme assez voisine, un peu plus récente. Donc celle de Turquie doit être aux alentours de 8 à 7 millions d'années. Et puis récemment encore, en Akali, Kenya, un animal qu'on appelle Nakalipithecus. Donc on revient en Afrique cette fois, mais dans un niveau un peu plus vieux que celui de l'Uranopithèque de Grèce. Nakali est daté d'environ 10 millions d'années. Avec une forme, j'ai eu il y a quelques semaines l'occasion de comparer les deux. Il y a quelques différences, elles sont minimes. Vraiment, pour les différencier, c'est un travail de spécialiste. Et je pense que le Nakalipithecus et l'Uranopithèque sont des formes extrêmement proches. Donc on a avec ce groupe-là de primates à émail épais, probablement dès le Miocène supérieur, à partir de 10 millions d'années, 19, etc., des formes qui sont probablement des formes très voisines de l'ancêtre des Australopithèques. Alors on peut rétorquer que la séparation entre la lignée des humains, ce que j'appelle les hominiens, et la lignée des chimpanzés, s'est séparée selon certains biologistes. Alors là, les dates varient selon les auteurs, parce que ça varie de 3 millions d'années à 14 millions d'années. Donc, on a de la marge. Hein. Mais enfin, bon, ces séparations doivent se faire avant qu'apparaissent ces formes-là. Et si l'on regarde les relations phylétiques, le problème, c'est un peu le problème qui se trouve ici, avec une série de points d'interrogation. Quand s'est faite la séparation? Pour l'instant, on ne peut pas le dire. Ce que je peux dire, c'est qu'elle s'est faite avant l'Uranopithèque, avant le Nakalipithèque, c'est-à-dire avant 10 millions d'années. 11 millions, 12 millions, 13 millions, 14 millions, j'en sais rien, mais avant. Alors certains disent, oh, ça fait trop, parce que biologiquement, nous sommes très proches des chimpanzés. C'est possible, certes, mais biologiquement, c'est possible. En revanche, si l'on regarde, nous revenons à la lignée des équidés, c'est-à-dire c'est mon dada, certes, mais entre deux formes d'équidés, à gauche, un qu'on appelle Mesohippus, à droite, un qu'on appelle Merikippus. Alors, l'évolution des équidés, j'y reviens parce qu'elle est admirablement connue pendant tout le tertiaire. En Amérique du Nord, on connaît des fossiles pratiquement à chaque instant de cette lignée des équidés. Donc, c'est une lignée évolutive très bien connue. Entre ce Mesohippus et Merikippus, vous voyez qu'il y a une différence. La réduction des doigts latéraux. La réduction des doigts latéraux, la voilà ici. Bien développée encore chez le Mesoïpus, beaucoup moins développée chez le Mesoïpus. Il y a une évolution. Chez le cheval actuel, les doigts latéraux ont pratiquement disparu. Ils ne sont plus fonctionnels, les phalanges ont disparu, il n'y a presque plus que deux petits machins de chaque côté qu'on appelle les stylets. Eh bien, pour passer de ce stade-là à ce stade-là, il a fallu quand même un certain temps, puisque le Mesoïpus était à 30 millions d'années. L'Amérikipus est à 14 millions d'années. 15 millions d'années pour réduire les doigts latéraux du cheval. Bon, c'est pas mal. Alors, combien de temps aurait-il fallu pour passer de ce squelette de chimpanzé, à ce squelette de l'homme moderne, squelette de l'homme, puisqu'il a fallu 15 millions pour réduire les doigts latéraux du cheval, je vous le rappelle. Ou bien pour passer de cette morphologie externe, c'est une femelle de bonobo, à cette morphologie externe qui est la femelle d'un homo sapiens. Alors je vous laisse réfléchir simplement sur le temps qu'il a fallu dans les deux cas. Je vous remercie de votre attention.